Bienvenue sur
Tokyo Yume.
Tokyo Yume sur Couleur FM 97.1, la seule émission qui traite du manga, de la pop asiatique, des jeux vidéo, des dramas, des yaoi, des hentai, de la cuisine, du cinéma, enfin bref, de plein de trucs super cool, donc super
oui,
super nouveau,
des trucs super bien,
n'est-ce pas, et super relou pour ceux qui connaissent et qui aiment pas. Mais bon, de toute façon, même si vous aimez pas, on va essayer de vous donner l'envie d'aimer, quoi. On dirait, tu sais, ces chansons là, des comédies musicales, quoi.
L'envie, on dirait les feux.
L'envie d'avoir envie.
Patrick Sébastien.
Non, pas tout à fait, non.
Enfin voilà, ouais, donc du coup, déjà là, on les a tous perdus.
C'est la mort.
Donc, une émission riche en émotions, tout simplement parce qu'on a des dossiers de ouf à vous présenter. On a une équipe de chroniqueurs de ouf à vous présenter. Carrément. Ou à vous représenter. Ouais. Et on va commencer tout de suite avec notre cher ami Haro.
Tu reprends ta place de premier.
Exactement. Il faut réinsérer la hiérarchie là.
Il est temps des fois, voilà, de remettre les choses en place, j'ai envie de dire. Non, bah alors, et surtout que j'ai vu que Chamallow, j'arriverai pas à le faire arrêter de bouger sa tête.
Ouais, c'est fini là. C'est la musique, elle est trop bien.
Alors, donc du coup, comment ça va, Haro?
Toujours bien.
Alors, donc cette semaine, tu vas nous parler d'un jeu vidéo,
oui.
D'accord?
Bah,
classique, on va dire.
Un peu comme Horizon Zero Dawn, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, pas très connu, ça s'appelle The Witcher 3. Du coup, si vous connaissez pas, bah c'est l'occasion.
Putain, j'en ai jamais entendu parler.
Là, c'est pas The Witcher 3 que tu vas nous présenter, c'est The Witcher 3 Game of the Year.
Exactement, Game of the Year. Game of the Year
Edition. Qui est la suite de The Witcher 3.
Oui, tout à fait.
Évidemment. Donc voilà. Alors, on va revenir sur ce classique. Alors, vous le connaissez beaucoup, mais après, vous le connaissez pas.
J'espère pour vous quand même.
Vous le connaissez pas façon Arrow aussi. C'est ça le truc.
Exactement.
C'est totalement différent.
Façon Arrow, c'est.
Et Dieu sait qu'il voit les choses différemment, quoi.
Mais à défaut de pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas joué, mais vous connaissez au moins, quoi.
Voilà.
Okay. Je sais qu'il y a beaucoup de sexe et la barbe qui pousse.
Ouais. Ouais. Ah bah voilà, c'est
spoiler.
Il
n'y
a pas que la barbe qui pousse.
Exactement.
On enchaîne avec justement ce Chamallow qui nous dit des petits discours comme ça. Allez, on l'appelle très fort. Comment ça va, Chamallow?
Eh bah super bien. Figure-toi qu'il y a deux semaines, je suis allé à la Mangamania à Montélimar. C'était le feu. On a écouté Pokémon à fond dans la voiture et tout. Enfin bon, c'était la folie.
Et il y avait vraiment cosplay, le feu en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est
ça
le
problème.
Vraiment mis le feu. Le mec qui chante Pokémon. Mais il est taré, c'est vrai.
Mais il met le feu.
D'accord.
Et sinon, oui, j'avais des gens qui. Des cosplayers invités là-bas qui étaient vraiment géniaux. Enfin bon, c'était vraiment un super événement. Moins bien que la Tokyo Medaille, mais c'était sympa.
En même temps, après. J'ai envie de dire, qu'est-ce si on compare tout à Tokyo Medaille aussi, tu vois, c'est ça le truc.
Mais en même temps, l'opening de Death Note en sortant du parking, franchement, c'était quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, quoi.
Ah, mais bon, à Tokyo Medaille aussi.
Tu peux le faire, tu peux même le chanter.
Tu peux le chanter.
Alors, l'opening de Liv et Tom.
Voilà, ça aussi, c'est quelque chose à faire. Hein.
Ah oui,
ou à Rémi
sans famille aussi.
aussi.
Le remix, Rémi No Famille.
Sans famille.
C'est ça.
Kuroko No. Kuroko No Famille.
Kuroko
sans famille, tu sais. Enfin, voilà, donc voilà, ça sera Tokyo Medaille. Tokyo Medaille, on vous en parlera un peu plus tard.
Ouais,
donc
génial.
Du coup, alors ce soir tu nous présentes quoi?
Eh bien, je vais vous parler d'une petite un petit extrait de la mythologie japonaise tiré du Kojiki, un petit recueil de mythes japonais qui raconte
très
la formation
là-bas.
Des îles au Japon.
Voilà.
C'est un peu comme la Bible du Japon en fait.
Voilà, c'est un peu le Astérix et Obélix, c'était le mec qui
la rien à voir.
Le petit kit du routard.
C'est ça, exactement.
Il y a même
le petit paumé, c'est ah oui, d'ailleurs, on m'a posé la question panoramique, c'est lequel déjà?
C'est le vieux à
barbe. C'est le druide.
Ah OK, d'accord. On m'a demandé s'il était petit en fait, non alors.
Bravo les classiques.
Ah ouais, ça connaît ses classiques français.
Obélix, on va faire un dossier, hein. Ça va
ah
pas.
Bah c'est bien.
Je vais en faire un.
Ah bah celui qui va dire eh bah c'est bien, on va le présenter. Donc du coup, la dernière fois, vous posez la question, qu'est-ce qu'il fait là?
Et
la semaine dernière, vous m'avez dit on n'en veut plus.
Et
eh bah
on
il revient
plus jamais
et toujours. Parce que le squatter ultime.
C'est un moustique.
Il
c'est le moustique qu'on appelle très fort.
C'est le principe.
Le moustique roquette.
Voilà. Alors comment ça va?
Le moustique solaire.
Super, et toi?
Ouais, ça va, ça va. Alors la semaine dernière, tu nous as parlé des fêtes de mai. Et évidemment, on en a beaucoup appris, notamment au niveau des cerfs-volants. Voilà, où s'est découvert une nouvelle
passion. Des batailles de cerfs-volants.
Et donc alors, ce soir, tu vas nous parler de quoi alors?
Alors ce soir, je vous parle de Sword Art Online Ultimate Scroll.
C'est dégueulasse comme tu l'as dit. Mais en tout cas, on a compris. Alors, le film de Sword Art Online, donc du coup, qu'on a pu voir au cinéma.
Ouais.
Ah, c'est quand même dingue.
Qu'il y a à Bourgoin.
Il y avait 4 personnes dans la salle. Incroyable.
Vous avez quand même Your Name, qui est le film qui a tout tué. Qu'on a même pas pu voir du côté de chez nous.
Police.
Alors le film d'Asao, par contre, j'ai l'impression qu'ils arrêtent pas de le passer, quoi.
Ouais.
Voilà. Alors qu'il y a personne.
Voilà. Alors donc du coup, il était bien ou pas?
Il était sympa.
Ok. Et ben on va découvrir plus tard dans ton dossier. Et donc évidemment le meilleur pour la fin. J'aime bien parce que à chaque fois on sait jamais si le mec en fait c'est genre il t'a zappé.
Il est
chiant. Et voilà.
Ou...
en fait il t'a zappé. Il dit voilà le meilleur de la fin histoire d'amuser le truc. Ou c'est vraiment ce qu'il pense.
Voilà.
Mais bon on va le dire. Le meilleur pour la fin. notre cher ami Botan. Applaudissements. Ouais.
Le Botan.
Alors, donc, Botan, comment ça va?
Eh ben, ça va pas trop mal, en pleine préparation pour le Tokyo Medet.
Ok, oh, donc du coup, alors, ce soir, toi, tu veux nous parler de quoi?
Bah, je vous parle d'un manga dans la même veine que Orange, non pas du tout en vrai, ni Fijo.
Ah ouais, un animé voilà. Humoristique.
Ouais, très.
Voilà, on va bien rigoler quoi.
Je sens le
voilà.
Sarcasme.
Ah bah non,
non très
ah
très
bah
humoristique, non, ouais, vraiment, vraiment.
Bah, c'est un animé humoristique.
Ah, surprise.
C'est vraiment l'inverse d'Orange en fait.
Ok. Eh bah écoute, on va découvrir ça plus tard dans l'émission. Alors, évidemment, vous aurez tous vos classiques, hein, c'est-à-dire un peu d'actualité. Vous aurez aussi peut-être un dossier de Rio si jamais on a le temps. La semaine dernière, j'ai quand même fait un dossier sur Soundvox en 2 minutes.
30 minutes. Voilà.
Voilà. Et c'est plutôt bien passé. Enfin, bref. Ah, j'ai pas dit la note parce que la semaine dernière il y avait beaucoup de 18 sur 20. Bah, moi je mets 19.
Voilà,
histoire de vivre.
Amazing.
Donc, plutôt que de jouer à Horizon Zero Dawn
ou de regarder Orange
ou de lire Bloodlad,
ça se comprend.
Voilà, sans aucun problème.
Legit.
Bah, allez, donc du coup, on en revient à l'essentiel de Tokyo Medet, c'est évidemment la découverte musicale. Alors, ce soir, j'ai envie de vous passer un classique simplement parce qu'il fait partie de l'actualité. C'est pour moi un des dessins animés que je classifie de zéro défaut. Vous voyez, il y a quelques dessins animés où je sais même pas ce qu'on peut leur reprocher. Et bah, il y en a un pour moi, c'est Cowboy Bebop. Alors, Cowboy Bebop, c'est un dessin animé qui se passe dans l'espace. Vous suivez un chasseur de primes qui s'appelle Spice Beagle. Et donc, du coup, qui va avoir sa petite équipe. Et ces personnages qui sont avec beaucoup de couleurs. C'est en même temps un dessin animé avec une histoire absolument énorme. Vous avez des épisodes qui vous font penser à des épisodes, à des films carrément, tellement au niveau scénario, c'est travaillé. Et l'animation, la musique totalement Jay-Z de Yoko Kano. Non, mais franchement, c'est. C'est un des meilleurs dessins animés que j'ai vu. Par contre, alors bonne ou mauvaise nouvelle, ils annoncent une série live faite par les Américains.
Oui.
Donc voilà, avec des pincettes. On va s'arrêter là, on va revenir à la musique avec alors
Cowboy Bebop Evolution.
C'est l'opening qui s'appelle Tank. Alors, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de parole, c'est normal. Mais alors, par contre, essayez de vraiment écouter les instruments. C'est une tuerie. En plus, l'opening, ça fait un peu référence, vous voyez, aux séries des. On va dire des années 70 aux États-Unis. Enfin bref, c'est tout plein de références. Écoutez-le, savourez. C'est Cowboy Bebop, Tank en toute activité sur Tokyo Medet. Ah mais franchement,
ils étaient à fond là.
J'adore
tellement.
Non mais franchement, j'ai grave envie un jour de vous faire un dossier dessus parce que
comment tu fais pour trouver des trucs aussi cool.
Mais par contre, je vous dis, c'est très dangereux. C'est le genre de dossier que je pourrais faire et qui pourrait me rappeler mon dossier sur Fate Zero, celui où j'ai passé 20 piges quoi, à tout écrire. Non mais il y a tellement de choses à dire sur ce dessin animé.
C'est un autre dossier maudit de Rio.
Ce dessin animé est un bijou et donc du coup le compositeur, c'est donc Yoko Kano, c'est une femme, c'est ma préférée. Elle a fait les chansons de Escaflow, de Cowboy Bebop, de Turn Again Dam.
Elle a fait même beaucoup d'autres trucs en dehors.
Mais c'est un génie. J'adore cette femme. Je suis amoureuse de son travail.
Si je me trompe pas, elle a aussi fait des compositions beaucoup plus classiques avec un orchestre symphonique, etc. Et elles sont génialissimes.
De toute façon, à la base, elle travaille avec des orchestres symphoniques. Quand elle a fait son travail, par exemple, sur Escaflow et Cowboy Bebop, elle avait le philharmonique
de Tokyo.
Non, alors attends. C'est Varsovie, celui-là.
C'est Varsovie. C'est le plus gros d'Europe.
Franchement, c'est
c'est le deuxième plus gros après Pride.
Franchement, c'est, vous voyez, il y a des dessins animés que j'ai vus qui étaient pas forcément exceptionnels, mais c'est vrai que rien que pour la musique, et bah, j'avais envie de les voir, quoi.
Ouais, c'est ça.
Après, des fois, je me suis un peu, ça m'a un peu fait chier parce que les dessins animés étaient vraiment pas top, mais la musique
et
était cool.
Écoute la BO.
Enfin bon. En tout cas, donc voilà, c'est Cowboy Bebop. Tiens, ça vous a bien réveillé, ça vous a bien mis dans
clairement
l'ambiance.
Ouais,
et
alors,
justement, voilà, pour continuer dans cette ambiance-là,
allez,
je vous propose d'attaquer avec le dossier de Botan, qui va vous parler donc d'un dessin animé qui
un dessin
fait
animé
rire. Voilà. Fait par Kyoto Animation.
Oui, et voilà.
Rien que pour ça, ça vaut le
voilà
coup.
Voilà, ça vaut le coup. Allez, donc Nishijo. Donc on va recommencer comme d'habitude pour une petite fiche technique. Donc à la base, c'était un manga écrit par Keiichi Arawi et pré-publié par le Monthly Shonen Ace Comptik. Alors je sais pas si c'est une faute de frappe ou pas, mais j'ai trouvé ce nom-là. Mm-hmm. Entre décembre 2006 et décembre 2015, donc pendant 9 ans quand même. Mais il était assez lent puisqu'il est relié en 10 volumes et n'est pas édité en France malheureusement. Mais ce soir, on va encore parler de l'adaptation animée de la série, et qui est animée par l'excellentissime Kyoto Animation, qui a fait un vrai travail de, un travail d'enfer en fait pour cette série. Il est diffusé du 3 avril 2011 au 25 septembre 2011, donc il y a déjà quelques années, et comporte un total de 26 épisodes auxquels se rajoute un OAV épisode 0, qui n'est pas nécessaire à la compréhension du manga, enfin, en tout cas qui va pas vous aider à le comprendre plutôt. Et donc, on va ensuite passer directement à l'animé en lui-même. Donc, moi, j'ai regardé encore qu'une poignée d'épisodes à l'heure actuelle, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est surtout un dossier coup de cœur, en fait, pour cet animé, qui, je pense, est un vrai délice à regarder de temps en temps, tellement il se prend pas au sérieux. Donc, on va, en quelque sorte, suivre deux groupes de personnages en même temps, au travers de courtes situations humoristiques pleines d'exagération et de scènes abracadabrantesques. Voilà, j'ai passé un mot compliqué, je suis content. Le tout porté par une animation aux petits oignons. On va donc avoir un groupe, un premier groupe de trois collégiennes, Yuko Aioi. Oui, c'est un nom bizarre. Qui est très énergétique, totalement tête en l'air, maladroite, parfaitement timbrée. Et elle aime beaucoup saluer ses camarades en disant « Selamat pagi », qui est un bonjour indonésien. Voilà, il y a que elle.
Donc si tu es en Indonésie et que tu dis ça,
bah c'est le bonjour.
Ah.
Voilà, c'est bonjour. Voilà, c'est juste là. Alors ensuite, on a Mio Naganohara, qui est une fille sportive aux cheveux bleus. Elle est vraiment très sportive et amoureuse de Kojiro Sasahara, qui vient en cours sur une chèvre. Voilà. Et qui agit comme si c'était le fils d'une grande maison japonaise, alors qu'en fait, juste ses parents y tiennent une ferme. C'est pour ça qu'il vient sur une chèvre d'ailleurs. Et il a un majordome, etc. Enfin, c'est très drôle. Et ensuite, on a Mai Minakami, qui est une fille plutôt calme, très intelligente et maline. C'est une vraie otaku qui arrive toujours à sortir des situations les plus étranges avec une aisance presque surnaturelle. Elle va vous faire des jeux où ils doivent monter des marches, elle va sortir le nom d'un sort de Donjons et Dragons et elle va monter toutes les marches d'un coup et elle va gagner. Cependant, elle a une forte tendance à dessiner des petites histoires courtes et totalement excentriques, pleines d'humour très burlesque. En fait, vous comprenez pas ce qui se passe, mais c'est très drôle. Hein. C'est très drôle à voir. Et elle présente ça aux personnages pour les occuper. Et on a un autre groupe de trois personnages, donc Nano Shinomone, Shinonome, pardon, qui est une écolière androïde qui s'inquiète toujours de tout, notamment qu'on découvre que c'est un robot, alors qu'elle a une énorme clé à remonter dans le dos, ce qui la trahit totalement. Elle possède plein de gadgets inutiles, comme des membres pouvant contenir des gâteaux, ou des armes, des jouets, et plein de choses incongrues qui servent littéralement à rien. On a aussi Professeur, oui c'est son nom, hein, on n'a pas d'autre nom, qui est en fait un génie de 8 ans, qui a conçu Nano. Elle fait souvent des réglages sur elle pour ajouter des fonctions totalement inutiles, donc c'est une scientifique de 8 ans, hein, donc elle va plus à l'école car apparemment elle est déjà diplômée, mais continue d'agir comme une enfant. Voilà, donc elle va, bah, justement elle a mis des gâteaux dans les bras de Nano pour pouvoir les manger quand elle a faim.
D'accord.
Et enfin on a Sakamoto.
Ah.
Rien à voir avec la série animée.
Ça me rappelle.
Puisque lui c'est un chat noir en fait qui porte une écharpe rouge qui a été créée en 2 minutes par Professeur et qui lui permet de parler. Étant donné qu'en année chat il a 20 ans. Il a tendance à apprendre de haut le professeur Nano qui vit avec lui, avec qui il vit en fait, mais elle lui rentre bien parce qu'elle lui font toujours des petits gags et des attrape-nigauds où il se fait toujours avoir. Donc pour le moment j'ai regardé que très peu d'épisodes, mais il semble pas avoir de synopsis très précis.
Ah, je pense pas. Le but de
même
cette
c'est
année,
pas le but du tout, hein, je pense.
Voilà,
hein,
c'est
voilà.
Plus de faire un monde.
Exactement. Et donc on va suivre ainsi la vie des personnages au travers de différentes situations tout aussi ridicules que drôles, ce qui permet à cet animé d'être un vrai plaisir à regarder.
Tu
à
peux les regarder dose. Totalement dans le désordre en fait. Les
oui.
Épisodes.
Oui, oui, ça marche. Le premier épisode est quand même une petite tuerie compensée par lui parce qu'il est excellentissime. L'humour y est bien sûr typiquement japonais. Mais reste parfaitement compréhensible et vous pouvez donc parfaitement le regarder seul ou entre amis. Attention quand même aux non habitués parce que les scènes partent parfois très très loin et c'est surprenant même pour des amateurs de manga. Donc même si ça fait partie du comique de l'animé, pensez aux néophytes et prévenez-les avant. L'animation, contrairement au scénario, est parfaitement magnifique. Les détails sont exceptionnels et la qualité de l'animation comme du dessin sont remarquables.
Kyoto animation.
Surtout pour un animé de ce genre-là, puisque d'habitude justement l'animation est moins travaillée vu que c'est comique.
Quel gâchis.
Les situations les plus folles comme des courses poursuites avec des effets de vitesse comme à la Dragon Ball Z sont réalisées de façon parfaitement propre et l'image ne devient jamais brouillon et jamais trop de traits ou quoi. Bref, c'est une vraie bouffée d'air frais à regarder de temps en temps pour se détendre du quotidien. Les scènes sont toutes plus épiques les unes que les autres, source de mèmes inépuisables. N'hésitez pas à détourner vos scènes préférées d'ailleurs.
D'accord.
Et à nous les envoyer.
Ah bah oui, avec grand plaisir.
Voilà. Et donc si je devais lui donner une note, ça a un coup de cœur, mais vu que j'ai pas encore tout vu et que ça reste un animé comique assez sympathique pour la détente, je dirais un bon 15 sur 20.
D'accord, ok. Et voilà. Bah franchement, moi je trouve que c'est totalement mérité et on l'applaudit très fort.
Wouh!
Non mais ça, c'est comme tu dis, ça fait du bien en fait.
C'est ça, c'est pour ça que
c'est
je...
de voir des dessins animés comme ça
voilà,
où tu te prends pas la tête, tu regardes un épisode comme ça et après
oui, habituellement j'ai tendance à vraiment manger les séries animées, c'est pour ça que j'en regarde assez peu mais je les regarde d'un coup. Et là non, en fait, j'ai regardé 2-3 épisodes, je me suis dit c'est bien pour aujourd'hui, j'en regarderai demain et voilà, je continue comme ça. Il y a 26 épisodes, je crois, j'ai oublié de le dire.
Bah je serais tenté pour commencer à regarder ce soir, tiens.
Et bah voilà, tu vois, bah tu
peux, ça donne envie.
Tu peux totalement.
Ouais. Après c'est le but de Togumi aussi hein, c'est de faire découvrir des trucs et vous fassiez direct.
En fait, je fais semblant. Mais non, j'ai
Avec une première scène où tu as une explosion nucléaire.
C'est
absolument pas justifié.
Moi, je sais, perso, la semaine dernière, du coup, après l'émission, j'ai fait Horizon Zero Dawn. J'ai terminé. J'ai enchaîné après avec des cerfs volants. Je me suis éclaté.
Voilà. Après, il a regardé Olenji trois fois.
Bah, au moins, histoire de bien comprendre. Quoi.
Voilà. Il faut bien saisir
tout. Et après, un petit Bloodlad et tout au dessert. Aux toilettes.
Voilà.
Que ça passe bien, quoi. Ça, c'est ça l'émission Tokyo Humé. Il faut suivre notre programme, quoi. C'est un truc à suivre. Bon allez, vous êtes toujours sur Tokyo Humé, donc sur Couleur FM 97.1. Maintenant, on va faire un peu un peu de jeux vidéo, tiens. Allez, on va revenir sur un jeu qui est nouveau.
Oui,
vous découvrez sans doute.
C'est ça.
Ou peut-être que vous l'avez entendu une fois.
Jamais entendu parler.
Au chalet.
Après, c'est un dossier qui s'adresse surtout à vous. Vous voyez, les personnes qui connaissent pas. Enfin, qui connaissent pas le jeu et pendant les conversations, vous voyez, vous sentez un peu seul parce que vous voyez les autres qui sont à fond dedans, quoi.
Ce qui est mon cas en fait, puisque je n'ai pas encore joué au jeu. Je suis pas sûr du nom du héros.
C'est parti, donc du coup pour le dossier d'Aro.
Juste après. Du coup, The Witcher 3, on va faire comme d'hab la petite fiche technique, comme le fait si bien Boutan, je le fais d'habitude. Sorti le 28 mai 2015 par la boîte CD Projekt Red, qui avait fait du coup, comme vous en doutez, The Witcher et The Witcher 2.
Quoi?
Incroyable!
C'est chaud, on jamais douté.
Ah, mais des fois, les jeux, c'est pas toujours les mêmes boîtes.
Ah, oui,
c'est si les droits, ils sont rachetés et tout.
Call of Duty.
Mais enfin, Loot. Ça m'étonne.
Il y a eu deux DLC qui sont sortis qui s'appellent Heart of Stone and Blood and Wine.
Blood and Wine, j'adore ce nom.
Ouais. Le premier vaut 9,99€ et le deuxième 19,99€. Et je peux dire que sans déconner pour des DLC, mais c'est des bijoux, ils valent largement, mais largement leur prix. Même 19€ pour le DLC Blood and Wine, je vous jure que c'est pas cher payé, ils auraient pu en faire un jeu entier tellement il est bien.
C'est ce qu'ils avaient dit.
Bah oui, mais non, mais c'est vrai, c'est.
Écoutez,
c'est
totalement avec vrai. Laquelle il parle.
Ah mais là, c'est. Il ne sera pas.
Il ne peut pas bluffer.
Mais c'est on ça, est d'accord, dans la version Game of the Year, il y a tout.
Oui, il y a tout.
Et le DLC avait gagné le prix du meilleur RPG 2016 devant Dark Souls 3.
Ouais, voilà. Un DLC quand même, c'est qui est beau.
Devant Dark Souls,
à 20 euros.
À 20 euros, non mais franchement c'est beau quand même.
Bah, c'est un peu voilà, les DLC, vous voyez, où ils prennent pas les gens pour des cons, quoi. Un peu.
Ah, non, mais là, voilà, clairement pas. Clairement,
moi, ça me fait penser
pas.
Un peu les DLC Capcom qui me font toujours plaisir.
Ouais, voilà,
je paye sans compter.
C'est ça, mais là, c'est un peu le même style. Vous
quand
en avez
payé 4 euros pour un costume, je sais que je vais bien amortir ces
costumes.
Ah oui, c'est un beau costume.
Exactement. Enfin bref,
pour moi c'est typiquement le genre de jeu pour lequel a été créé le mot DLC.
Mais c'est exactement ça.
Downloadable content. Il y a du contenu, enfin.
Ouais, là il y a du contenu. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la série de The Witcher est tirée des livres de Andrzej Spakovski. En fait, c'est dur à dire parce que dans son nom il y a DRZ, trois lettres comme ça improbables qui s'alignent.
Bah, Andrzej
Spakovski.
En fait, t'as pas dû dire le nom de. T'as dû dire, c'est tiré d'un livre.
C'est tiré d'une série de livres polonais. Oui, il faut savoir que c'est polonais.
C'est ça.
Et tout à fait. Et donc du coup, enfin, on va parler là de l'histoire de The Witcher 3.
Ah oui, qu'est-ce qui se passe dans The Witcher 3 ?
Les aventures de Geralt de Rive, un sorceleur âgé de quasiment 100 ans en fait, mais il se trouve que les sorceleurs
il est jeune.
C'est ça, les sorceleurs après avoir subi des mutations des sens surhumains, une ouïe et une vue bien plus fines que le commun des mortels,
ils peuvent se faire contrôler par un personnage.
C'est ça. Sont insensibles aux maladies. et sont stériles et vieillissent très 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 doucement.
Ah, sont stériles, ça c'est moi, ça c'est plus triste ça.
En même temps, c'est pour éviter de propager les mutations dans la nature. Ouais.
Et bien après, t'as plus besoin de contraception.
Bah oui, après, t'as plus besoin de contraception.
Connaissant le personnage et voilà, je pense que ça doit l'arranger.
Oui, grave, et puis surtout qu'il est insensible aux maladies du coup.
Il peut même pas choper le sida.
Non, rien du tout, que dalle, nada.
D'accord.
Il va en profiter, non?
Oui. Oui.
Il va.
Du coup, pour l'histoire, ça s'appelle The Witcher 3 The Wild Hunt ou La Chasse Sauvage.
Ah,
et en gros, bah ouais, mais en gros c'est ça. Hein. Et le but, en fait, on va dire dans les grandes lignes, c'est que vous avez appris que votre fille adoptive Ciri est de retour quelque part et qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. En fait, c'est un groupe d'elfes.
On l'appellera Apple.
C'est ça, qui voyage à travers le monde, enfin à travers les mondes, parce qu'il y en a plein, des mondes parallèles, pour essayer de la retrouver. Parce qu'il se trouve que Ciri est un être particulier, on va dire, qui possède des pouvoirs qui lui permet justement de voyager extrêmement facilement à travers les mondes.
Ça, c'est l'histoire du 3 ou l'histoire de la saga?
C'est l'histoire du 3, seulement du 3.
Seulement, tu vois.
C'est ça. Et le jeu mais ultra complet. Vous avez des quêtes secondaires, mais toutes plus... Enfin, mieux les unes que les autres.
Je crois que c'est l'un des jeux auxquels je t'ai vu le plus jouer ces deux dernières années.
Honnêtement, pour finir tout le jeu... à 100% avec toutes les quêtes et tout, tous les points de la map, j'ai mis plus de 90 heures. Hein. Il a une durée de vie exceptionnelle.
Et sans les DLC.
Et sans les DLC, ouais, c'est précis, sans les DLC. Les décors, mais sont magnifiquement beaux. Le moindre arbre, les plaines, les prés et tout sont super bien faits. Les détails de l'histoire qui change avec les quêtes qui va avoir des conséquences, parfois immédiatement, parfois plus tard. Genre, vous vous souvenez du connard que vous avez tué
à la troisième quête du jeu?
C'est ça, 5 heures plus tôt. Ah bah regardez, vous avez une conséquence ce matin, allez hop, cher, pour ta gueule. Voilà. Et des fois le jeu mais est vraiment super hard, t'as envie de jouer les gentils. Eh bah allez, grand tacle que tu vas te manger, tu voulais jouer gentil, bah tiens, allez hop, fallait être moins sympa la prochaine fois. Et franchement, mais le jeu mais il hésite pas. Hein. Alors il est pas forcément extrêmement difficile, sauf si vous mettez le niveau de difficulté max. Mais parfois ouais, scénaristiquement parlant, mais je crois que c'est clairement un des meilleurs jeux que j'ai pu faire.
Donc
et de très 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 loin.
Il a abandonné,
oui, largement.
Il m'a abandonné sur Borderlands pour y aller jouer.
Ah, oui, d'accord.
Et le 2.
Ce jeu mais est exceptionnel, les quêtes mais même les quêtes secondaires, elles sont largement bien écrites et super bien faites, les dialogues sont cool, la VF est super bien. Honnêtement, ouais. J'ai préféré la voix française de Geralt à la voix anglaise, parce qu'il a une voix un peu plus naturelle, je trouve, en français. Même si une voix très rauque, très grave, comparée à la voix anglaise, qui je trouve fait. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est trop modifiée, c'est trop bizarre. J'arrive pas à apprécier
genre
sa voix.
Colonel Riel.
Sa voix anglaise.
Quand même pas, mais
version anglaise.
Ouais, c'est
abuse
ça.
Pas.
Colonel Riel anglais. Vous avez plein de détails, comme tout à l'heure, il en parlait pour déconner Chamallow de la barbe qui pousse petit à petit, mais c'est vrai, ça c'est un détail. Tu vois, chez le barbier, t'as plus de barbe et petit à petit, au fil des heures, du temps qui passe dans le jeu, elle va repousser.
Ah, mais ils en parlaient, c'était des arguments de vente là.
Mais en plus, c'est bien fait. On pourrait croire que c'est un argument à la con, mais c'est bien fait.
Avec le sexe.
Bah après honnêtement ça on en a parlé beaucoup mais c'est pas non plus surabusé hein. Des scènes de sexe vous en avez pas à tirer la rigueur non plus.
On a 6 grand max en...
ouais, et encore j'allais dire au moins ouais important. Alors après si vous passez votre temps dans les bars à prostituer bon bah oui là il y a un peu plus de scènes.
C'était pas Rigo qui disait qu'il y avait 20 heures de sexe dans le jeu justement sur 25 heures
si tu fais toutes les prostituées peut-être que si mais...
toutes les femmes du jeu peut-être mais...
et encore non franchement c'est rapide hein. c'est rapide Geralt. Non, franchement c'est pas surabusé, le jeu est censuré hein.
Une flèche.
Vous voyez des paires de seins mais voilà quoi, vous avez vécu avec Game of Thrones imagine.
D'accord.
C'est quoi?
Non, je connais pas.
Après vous aviez aussi plein de petits DLC gratuits qui rajoutent des tenues, des nouvelles quêtes, des nouvelles armes et tout. Et ça c'est gratuit ça. Hein.
Tu vois les Capcom,
Capcom rappelez-vous-en, c'est gratuit ça. Et je pense que je peux parler aussi du Gwent qui est en fait un jeu de cartes que vous pouvez faire avec les PNJ, pareil, il y a de l'argent et qui est super super bien fait.
Et qui est un jeu qui a
Et qui est devenu un vrai jeu. Ouais, qui est devenu un vrai jeu en ligne maintenant, un vrai jeu de cartes
avec des tournois.
Ouais. Et du coup, un petit jeu comme ça rajouté dans The Witcher 3, qui est pas du tout obligatoire, vous pouvez passer. Hein. Si des fois vous vous faites chier, ben vous allez parler au marchand du coin, faire une partie.
C'est un mini jeu de
vous faites une partie de cartes
qui est devenu
et
un TGC.
Oh là là.
Bah, tu vois par exemple, depuis tout à l'heure, je t'entends dire tout plein de qualités, on le sait. Alors maintenant, le plus marrant serait que t'essaies de nous trouver un défaut.
Franchement, honnêtement, mais moi je suis un grand fan de jeux vidéo, hein. J'en ai fait plein, mais des défauts, mais c'est super dur à trouver. Honnêtement,
même mieux que Dishonored 2,
même mieux que les Dishonored. Pourtant,
même
je suis un grand fan de la série. Mais honnêtement,
ah, mais de toute façon, ça fait partie d'un des meilleurs jeux
super hard
du monde. Hein.
Bah oui. Des défauts. À la rigueur, si vous voulez, franchement, je peux dire que si vous mettez pas les hauts niveaux de difficulté, il est peut-être trop facile. Ça apporte pas. Au bout d'un moment, les monstres sont assez faciles à tuer. C'est vraiment le seul défaut que je pourrais trouver, honnêtement.
Ça compte pas.
Parce que pour
si
moi,
t'as
ce
pas
jeu,
fait, si t'as pas fait le 1 et le 2, Non. Que,
c'est pas du
non,
tout embêtant.
Toi, tu les as pas fait, les 1,
le 2. J'ai fait le 2 comme ça, mais honnêtement, l'histoire est très bien rappelée, les personnages sont bien expliqués. Vous avez souvent la possibilité de demander aux personnages
pourquoi
qu'est-ce que t'as fait les années précédentes et tout.
Et, non, et le 2, il date d'il y a combien de temps maintenant?
Si je dis pas de conneries, c'est un truc genre 2011, je crois.
Et tu vois, 2012-2011. D'accord, et il était sorti sur PS3.
Quoi? Ça, c'est une bonne question. Mais alors, par contre, niveau graphisme et gameplay.
Ça a rien
une grosse différence. Ah ouais, moi c'est un monde, hein, c'est
d'accord.
Ça a rien à voir. Okay. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que les événements du 2 sont rappelés au tout début du 3.
D'accord.
En fait, vous avez plusieurs choix à faire dans le 2 qui influencent l'histoire. Et du coup, au tout début du 3, bah pareil, vous refaites ces choix et il refait un résumé. Et voilà. Par exemple, si vous avez tué un personnage dans le 2, bah vous le verrez plus dans le 3, quoi.
Okay.
Sauf si vous décidez qu'au final, non, mais je l'ai pas tué.
Moi, il y a un défaut que t'as pas pointé du doigt. C'est le risque de dépendance.
Ah.
Parce que non mais c'est vrai.
C'est vie comme ça.
C'est con.
En vrai, c'est le problème de plein de jeux.
Moi, j'en ai. Moi,
dire.
Non mais celui-là particulièrement parce qu'en fait, quand tu vois un jeu qui est aussi bien, aussi long, je veux dire.
Là du coup, j'avoue que si on considère comme un défaut, je peux témoigner, oui.
Franchement, j'ai vu pas mal de personnes. On m'en a parlé même. Il y en a certains qui ont passé leurs vacances dessus et qui ont même pas fini la
mais
partie,
c'est
la quête
tout le temps
normale,
un truc
quoi.
À faire. C'est incroyable.
Skyrim, pareil.
Mais oui. Et quand je l'ai fini le jeu, honnêtement, bah, peut-être t'es content de l'avoir fini, mais en même temps t'es triste. Ah, ma mère, voilà. Là, j'ai fini un gros truc, là, il me reste plus à faire.
Il me reste plus que 2 DLC de 80 heures.
C'est ça. Oh non. Ce jeu, mais il aura marqué l'histoire des RPG, mais.
Bah, de toute façon.
Ça deviendra une référence pendant de longues années.
Tout le monde a été d'accord là-dessus, quoi. Il n'y a plus rien à prouver par rapport à ça.
Non, mais en fait,
quoi.
C'est le comparatif. Horizon Zero Dawn se compare à Witcher maintenant. Vous ne comparez plus à Skyrim. Comme Skyrim à son époque. Tous les RPG, on est comparé à Skyrim.
Skyrim avait tout écrasé, mais là, The Witcher, là, il s'est imposé, mais en. Incroyable. En plus, pourtant. Ce qui est surtout beau à noter, c'est que c'est des projets que c'était pas non plus un énorme studio, quoi.
Bah, c'est un petit studio polonais.
Ouais, c'est un petit studio polonais, et maintenant, là, il pèse dans le game, quoi.
Eh ben, écoutez, franchement, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que c'était un jeu qui était très attendu.
Ah,
et après,
génial.
T'as toujours peur qu'il déçoive les fans, même en temps normal, quoi.
Propre.
Et a priori, bah, personne, l'a détesté, quoi.
Il y a tellement plu qu'il va même y avoir une série Netflix.
Je vais d'accord. Ouais.
Après, j'y ai pas encore joué. Ça se trouve, je vais être le premier à le détester. Mais si je dis, il y a moyen que je crève, quoi. Qu'on m'assassine, rien que pour ça.
Oui, il y a forcément quelqu'un qui l'a pas aimé, mais honnêtement, c'est rare. Même sur Steam, là, vous avez les moyennes des.
Moi, pour le moment, je l'ai pas aimé, mais parce qu'il t'a enlevé dans ceux qui lui attendent 3 mois pour le finir.
À plus de 40 000 notes d'utilisateurs, c'est la moyenne, elle est quand même extrêmement positive. Je crois que dans les moyennes Steam, il y a rien d'autre.
C'est hyper rare, quand même.
C'est à plus de 40 000, 50 000 notes, c'est encore extrêmement positif. Et ça, c'est beau, quand même.
D'accord,
j'avoue.
Bon, bah, écoute, je pense que on peut applaudir maintenant et dire que la note,
c'est de folie, quoi.
La note, c'est obvious. Moi, je mettrais 20. Franchement, toute honnêteté. Je crois que j'ai jamais mis de 20 pour l'instant, mais là, celui-là,
c'est pas un jeu tout public.
Ah non.
Non, c'est vrai qu'il y a
plus.
C'est un peu.
Au moins 8 ans.
Comment dire. C'est un peu censuré, mais bon, il y a 2-3 moments quand vous tuez 2-3 gars.
Genre, est-ce que Rémi peut.
Ça part en décapitation, des membres. Et après, bon, bah, forcément, le fait qu'il y ait des paires de seins. Les scènes de sexe,
plus,
voilà.
Ouais, en général, ça joue quand même un peu, quoi. Et c'est vrai.
Oui, oui. Mais sinon, d'accord. Il n'est pas abusé. Hein. Vous n'avez pas du sang et des.
Et des
du sexe, ça tire l'arigot. Ouais.
Ah, mais pas de soucis, on prend. Ok, d'accord. Eh ben, allez, merci encore pour ce dossier à notre cher ami Aro. Vous êtes toujours sur Cooler FM pour l'émission T'occuper. Vous avez notre cher ami Chamallow qui va vous parler maintenant d'histoire.
Oh bah, alors,
voilà, qui va vous rappeler
comment
Japon a été créé, c'est ça?
Oui, c'est ça. Comment le Japon a été créé? Alors. Pardon.
Ok,
il
c'est
se prépare.
Oui, voilà, c'est ça, désolé.
Il va faire des vocalises bientôt.
Voilà. Bref, vas-y. Je suis prêt. Alors, avant de commencer, je peux vous avertir que ça pourrait être long. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Et il y a beaucoup
trop.
De choses à dire.
Il ne faut pas que ce soit trop long.
Donc,
non plus.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler. Et puis, en gros, ce qu'on va faire, c'est que Ryo, tu vas pouvoir m'arrêter dès que tu auras envie que je m'arrête. Voilà.
D'accord, ok.
Pas tout de suite, hein, de préférence. Donc, du coup, préparez-vous pour un dossier qui ressemble à Game of Thrones, mais en mieux. Et,
si à un moment tu me vois placer le mot topinambour, et ça veut dire que.
Ça te fait rire. Ok.
Ça veut dire qu'il faut arrêter.
Ok, c'est le message codé. Ok, ça passe. Et du coup, je vais dire beaucoup de noms japonais.
Incroyable.
Voilà. Et vous allez peut-être pas tout retenir. Donc, si vous les retenez pas, c'est pas grave. Je vais les rappeler. Si vous oubliez des trucs, n'hésitez pas à me poser des questions. Et à chaque début de chapitre, je veux que quelqu'un fasse yo comme ça.
D'accord. Si tu veux.
Merci.
On va mettre la musique du Jiraya.
Ouais, non, c'est ça.
Je vais le faire, hein, t'inquiète.
Alors, du coup, nous allons assister à la création du monde. Alors, ce que je vais raconter est tiré d'un livre mythologique.
En plus, je rappelle que ça, je l'avais fait une fois. tu peux continuer, c'était la petite parenthèse.
Et du coup, voilà, un livre qui s'appelle le Kojiki, donc qui s'apparente vraiment à la Bible du Japon, qui raconte la création du monde vraiment vraiment de l'origine, quoi, voilà. Et du coup, dedans, on retrouve vraiment de tout. On retrouve l'ancêtre des sumo, par exemple, Takemi Kazushi. Et,
c'est le recueil de plein d'histoires et de mythologies.
Voilà, c'est ça, l'origine des kami, de toutes les références de manga que vous verrez, vous les trouverez là-dedans. D'accord. Quasiment. Voilà. Alors, du coup, nous allons commencer par le tout commencement. Au tout début, la Terre ressemblait...
Attends, il faut que tu me fasses des signes pour les yo-ho, hein.
Ah oui, merde, alors, du coup, commencement.
Yo-ho.
C'est excellent.
Incroyable.
La Terre ressemble à une espèce de méduse de toute flasque, toute bizarre, sans forme, dégueulasse. On appelle ça l'état chaotique.
On l'appellera Stephen.
Et nous assistons à la naissance de 5 divinités qui apparaissent sur Takamagara. Donc du coup, la naissance de ces 5 divinités, au début, il n'y en avait que 3. Ils s'étaient appelés les Sozo Sanshin, donc les 3 esprits de la création. Nous avons en premier esprit Amano Minakanushi, qui est le maître central, Takami Musushi, le haut créateur, et Kami Musuri, créateur divin. Bon voilà, ça c'est les 3, ils sont là juste pour faire joli. Et ensuite, ils sont rejoints par deux autres amis, comme dans One Piece un peu, qui s'appellent Umashia, Shikabi, Goji, punaise, c'est n'importe quoi.
Courage.
Et Amenoto Kotashi. Alors, Umashia, Shikabi, Goji, putain, je suis vraiment con. L'énergie, voilà, c'est ça, ça représente l'énergie. Et l'autre, il représente le ciel. Alors.
Le sel ?
Le ciel.
Ah, pardon. Déjà, le sel,
c'est pas Thomas.
Il représente le sel. Et ensemble, ils forment la Dream Team qu'on appelle les Koto Amatsukami. Donc, les dieux du Koto Amatsu. Ça s'appelle en fait les dieux de la création. La Dream Team Power Rangers, ils sont là, ils simulent leur présence. C'est aussi une technique secrète de Naruto, technique de Shishui Uchiwa.
D'accord.
Donc, voilà, ça c'est la technique des Koto Amatsukami. Ouais, je répète, comme ça on s'en souvient.
Ça reviendra.
Donc voilà, eux ils se reposent tranquillement donc à Takamagara.
Tranquille pépouze.
Takamagara, voilà. Donc ce qui signifie très haut dans le ciel. Bon bah c'est un endroit vraiment très haut que personne peut atteindre sauf les dieux, voilà, très bien.
C'est l'Olympe.
C'est vraiment la c'est plus ça. Haute plaine des paradis. C'est l'Olympe, pas le jardin d'Éden, c'est pas. Bon,
c'est l'Olympe. C'est...
Il y a plein de trucs pour comparer ça dépend des sources, mais bon bah ça pourrait être un grand vide origine de toute entité individualisée. C'est très beau. Résidence des dieux immortels, et c'est l'opposé de Yomo, donc qui est le monde souterrain. Ça a donné son nom à une montagne également qui s'appelle le mont Takamagahara. Bon, c'est le nom
logique
paradis, quoi. Qui est une montagne qui est implantée dans la préfecture de Gunma. Voilà. Ensuite voilà, ces dieux-là sont là juste pour faire joli, ils ont un rôle figuratif, ça n'a rien à voir avec la création vraiment de la matière de la Terre, mais c'est juste qu'ils étaient là au début, c'est les créatures asexuées qui dirigent ce monde. Alors, par la suite, nous avons 7 paires de divinités qui vont descendre sur Terre. Donc, en paires, je parle de parité, donc par deux, quoi, c'est ça. Donc, du coup, les 7 paires qui descendent sur Terre.
Yo.
Merci.
Jean-Michel Bruitage.
Alors, bientôt un Oscar.
Nous assistons à la descente de la première paire de divinités. Alors, nous avons Kuninoto Kotashi, qui est en fait une espèce de pousse de... qui ressemblait à une pousse de bambou rouge quand elle est sortie du sol, qui est également asexuée dans le Kojiki. Mais dans le Monjoki, qui est un autre livre qui regroupe les chroniques du Japon, il est décrit comme un mâle. Bon, bah, du coup, voilà, c'est vraiment que ça varie selon les sources, mais c'est une personnalité qui est très connue au Japon. Et bon, bah, son rôle, c'est de se tenir éternellement à l'intérieur du pays. C'est le dieu du centre, en fait, tout simplement. Donc, le kami de la planète ou de la nature, comme on veut. Dans la célèbre gravure de Toyohara Shikanobu, il est représenté comme un homme avec des amples vêtements jaunes. Parce que le jaune, en fait, dans la culture asiatique, ça indique la direction du centre et l'élément de la terre.
Attends, j'ai la musique de Mulan dans la tête.
Justement, le mec était justement représenté avec une longue barbe et des cheveux lisses et très longs. Donc, voilà, ça peut te rappeler l'empereur. Entre autres.
Ouais, parce que j'ai un Mulan, il n'y a pas de barbe.
Oui, ouais, je me disais aussi. Et puis son copain non plus d'ailleurs, maintenant que j'y pense.
C'est vrai.
Donc du coup, ce Kuninoto Kotashi est descendu avec son ami Toyo Kumono. Bon, c'est pas vraiment son ami, hein, on n'est pas dans un manga, mais presque. Qui est le dieu des nuages abondants et des chauves-tueux. On dirait à la radio, ça ressemble
un petit peu. Ouais.
Genre Ace le poids ardent, tu vois, c'est pas ce que
je veux. Maintenant, il y aura un dieu des nuages abondants et
Des champs.
Et des champs fructueux.
Voilà.
Bah ouais, ça sera le prochain. Bon, bah du coup, voilà, nous assistons à la descente des Kami. Ces Kami vont ensemble engendrer les 6 autres paires de Kami qui vont arriver sur Terre. Donc du coup voilà, ils vont engendrer 5 paires de 5 paires d'enfants de Kami disons, et ils vont engendrer la dernière paire qui est particulière. parce qu'il s'agit de Izanami Izanagi. Vous avez sans doute déjà vu ce super nom dans TF1.
Peut-être.
Dans Smite.
Dans aussi. Smite, entre autres. Donc du coup, Izanagi, qui est le dieu de la foudre, si je me trompe pas.
Oui,
quelque
non.
chose comme ça.
Non, c'est Izanami.
Non.
Non, c'est Raijin.
C'est tout, enfin.
C'est juste c'est juste le créateur.
C'est juste qu'il est là pour faire joli. Il dispose de...
Mais c'est le gars. Pour retenir, Izanagi, il y a un G comme dans le gars. Izanami, il y a un M comme dans le meuf.
D'accord.
Ouais. Ah,
au moins, vous la retenez qui est le gars et qui est la fille.
Ouais, ouais, c'est pas con. Bah oui, j'avais oublié de préciser que c'était une fille et un mec. Donc du coup, Izanagi, le gars, il dispose d'une lance géante qui oui. s'appelle Lame Nonu Oko. Donc en fait, la lance a un nom particulier au Japon, ça s'appelle un Nagi.
Naginata.
Voilà, c'est une arme japonaise très très longue qui fait plus de 2 mètres de long. C'est utilisé pendant les guerres pour couper les jarrets des chevaux dans les combats à cheval.
Ah oui, généralement c'était pas pour couper son steak le matin.
Et pour détruire le
midi.
Pourquoi pas. Et puis pour casser la gueule des gens. Cette arme est maniée dans une discipline qui s'appelle Nagi Najutsu. Bon, ouais, pas trop compliqué. C'est pratique pour courir et couper les jarrets des chevaux pendant les batailles. Et bon bah cette arme, la Menonu Oko, c'est appelé la lance céleste des pierres précieuses. Voilà, donc c'est énorme, hein, c'est un truc qui a plutôt de la maille. Et cette lance, il s'en est servi pour faire surgir de la mer une terre, la première terre du Japon. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a trempé sa lance et il l'a secoué dans tous les sens.
Et les gouttes d'eau, ça a fait la terre.
On formait la terre, c'est génial.
La terre du Japon.
Et ouais. Donc du coup la terre du Japon, enfin non, c'est même la première terre en fait, qui s'appelle Onogoroshima. Donc c'est, en fait c'est la première île. Et puis bon bah du coup il a emménagé avec Izanami dessus. Et puis du coup dessus ils ont eu un enfant. Voilà, donc c'est tout à fait normal, ils ont copulé et machin.
Salement.
En fait, en gros il a pu remplir sa mission de donner une forme à cette terre flasque et chaotique dégueulasse. Donc du coup,
en créant le Japon.
Ouais, c'est ça, en créant le Japon. Alors, ils se fiancent et ils ont un enfant dessus. Donc, ils en ont même plusieurs. Et ils ont entre autres un enfant qui s'appelle Iruko, ou celui qui est appelé aussi Ebisu. Donc, qui est la divinité des pêcheurs, marchands et prospérité.
J'ai cru aussi. Hein.
Non, quand même. Il est représenté en transportant un gros poisson avec lui. Donc, c'est soit une carpe, soit une sole selon les sources. Et sa fête est le 10 janvier en repartant sur les fêtes de.
Non, pas tout à fait, mais.
Il y en avait un
peu avant mai.
On avait un plus bientôt des enfants.
Ouais, j'y arrive tout de suite après.
Après, c'est pour peut-être le temps de finir ton dossier.
20 octobre à Osaka. C'est l'ancêtre du peuple japonais. Bon, c'est un peu comme ça. Il était réputé pour être dur d'oreille. Enfin bon, de toute façon, Adam était bien dur de la feuille.
Oh là là là
là.
Énorme blague.
Tout est lié. Et donc du coup, voilà, c'est cette divinité.
Rappelons que l'association ne sponsorise pas ce genre de blague.
N'accepte pas cette divinité dure de la feuille. Bon bah, elle était très connue et puis ses fidèles un grand bruit avant de le prier pour être sûr qu'il puisse écouter. Voilà, il est souvent associé aussi au Deikokuten, donc qui est le dieu de la fortune. Bon, ensemble, ils sont trempés, ils forment les 7 dieux du bonheur. On y reviendra dans un prochain dossier. Ensuite, nous allons aborder une autre naissance, donc la naissance de Kagutsuchi, donc qui est le kami du feu. Alors qui a eu l'idée aussi de faire naître à quelqu'un qui est complètement incandescent et qui brûle tout. Parce que du coup, en naissant, il a brûlé le ventre de sa mère, Izanami.
Oui, elle est morte.
Et du coup, elle est morte à cause de la brûlure. Alors, c'est pour ça qu'elle s'est retirée au royaume des morts. Bon, bah, du coup, Izanagi était pas content. Alors, il a décapité son fils tranquillement.
Tranquille, Pépou.
Qui n'aurait pas fait pareil, je veux dire. Pourquoi tu l'éteindrais pas en le mettant dans la mer? Tu lui coupes la tête.
Mais ça oui, paraît logique. Exact.
Au moins, c'est bon, coup, hein, il a fait une connerie, pas deux.
Je fais ça souvent.
Ouais, c'est ça. Au moins, c'est la fessée, tu vois. Pareil.
Ah oui, il est violente la fessée quand même.
Ah, puis regardez,
décoller la tête quand même.
Regardez un bébé qui brûle, c'est chiant aussi.
Ouais, c'est sûr. En naissant, enfin, en mourant, du coup, Kagutsuchi a fait couler son sang et a donné naissance à 8 nouvelles divinités, dont Takemi Kazushi, le fameux ancêtre des sumo, celui qui a gagné, le fameux dieu tonnerre, celui qui maîtrisa Namazu. Namazu, c'est le gros poisson chat qui porte les îles du Japon sur
énorme.
Son dos. Et pour rappel, quand ce poisson est agité, il cause des séismes. Et donc du coup, bah, Takemi Kazushi a réussi à dompter ce poisson. Et il a donné naissance à également Futsunushi, donc qui est le kami des épées. Bon, il en a eu d'autres, hein, voilà, il y en a eu
toute une chier.
Et qu'est-ce qui s'est passé après que Izanagi a tué son fils? Il est parti rejoindre sa femme dans le monde des enfers, dans le royaume des morts, pour essayer de la récupérer. Alors du coup, sa femme, elle le supplie de ne pas le regarder. Parce que entre-temps, bon, elle avait un peu changé et elle avait besoin de l'autorisation du Kaizen Fer pour pouvoir retourner dans le monde des vivants. Sauf que voilà, bon bah Izanagi, qui était un petit peu têtu, a insisté et a réussi à voir sa femme. Sauf que voilà, en attendant, son corps avait pourri, elle était rongée par les asticots, elle répandait une horrible odeur.
C'est exactement ça.
De Reblochon, voilà. Et du coup, il a dit nope, et puis il est parti.
Grave.
Comme ça, ça va, ouais. C'est exactement pareil, il s'est enfui.
Nope.
Alors, Izanagi essaie de s'enfuir du royaume des morts, et sa femme, qui était très furieuse d'avoir été humiliée, le poursuit jusqu'à la sortie de ce royaume.
Voilà.
Bon, il a réussi à s'échapper vraiment de justesse, et il scelle l'entrée avec une lourde pierre, et sa femme, pour se venger, menace de tuer 1000 de ses créations par jour. 1000 créations d'Izanagi par jour. Et Izanagi, en riposte, lui dit « Bon, bah écoute, c'est pas grave, moi j'en créerai 1500 en
ouais,
échange. »
Ouais, 1500 tous les jours.
Et c'est ainsi que débuta le cycle de la vie. Et c'est tout pour ce dossier, et on ouais. assiste à la suite.
Du coup, Izanami, c'était la déesse de la mort, maintenant.
Voilà,
ouais. Voilà, c'est ça.
Et elle est violente.
C'est un cadavre.
Oui.
C'est un peu ça. Ouh.
Bah, si tu devais lui mettre une note, alors, s'il sort du Japon.
Oh, pff, je dirais que franchement, c'est pas mal. Ça ressemble à Plus belle la vie.
En mieux. En vachement mieux. En vachement mieux.
Bon, bah je dirais 17.
Allez, on l'applaudit
d'abord. Ouais.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette version de l'histoire du Japon faite par notre ami Chamallow. J'espère que vous avez apprécié ces blagues, plus ou moins bien. Ok, d'accord. Mais ouais. Bon, voilà, toujours dans le bon esprit. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié.
Le Chamallow.
Allez, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Cette fois-ci, c'est le dossier du moustique.
Le moustique. Moustique.
Voilà. Donc du coup, qui va vous faire son dossier ce soir? Tu vas nous parler de quoi?
De Sword Art Online, Ordinary Scale.
Le fameux,
ah, t'as pas fait l'accent
le film.
T'as essayé, je sais pas.
Non, il a pas fait l'accent japonais.
Je l'ai repas fait une deuxième fois.
Allez, c'est parti.
Alors, déjà, petite fiche technique. Il est réalisé par Tomohiko Ito. C'est celui qui a aussi fait la série. Il est basé sur les light novels Sword Art Online, étonnamment.
Comme la série.
Oh, c'est bizarre.
Que sont faits par Rekit Kawahara. Le studio qui les a faits, c'est A1 Pictures.
Ouais, donc A1 Picture. Qui est pas mal.
A1 Picture.
C'est un assez bon studio, non?
Il est sorti.
Un assez bon studio, A1 Picture. Hein.
Ah oui. Même.
Il est sorti le 18 février 2017 au Japon. Et en France, il est sorti en avant-première au Kinépolis.
Waouh!
Waouh! Ce gars, il est sous.
Mais à Lille.
Ah, mince.
Ah, Kinépolis quand même.
C'est déjà pas mal.
Alors, vas-y. Alors, vite fait, pour rappeler l'histoire de SAO, c'est.
Ouais, c'est un mec qui est piégé en gros dans un jeu.
Enfin, ça c'est assez drôle.
Ouais, qui va en sortir deux ans plus tard, mais qui retourne un peu pour en parallèle à sa vie.
Pour régler des problèmes. Parce que,
après tout, quand t'as été prisonnier dans un endroit où t'as failli crever, le mieux c'est d'y retourner.
Ouais. En plus, c'est sa femme là-bas et tout.
C'est que du coup, c'est surtout que du coup, ça devient un héros, du coup, il va aider tout le monde, etc., à régler les problèmes dans les jeux vidéo. Parce que qui n'a pas de problème dans les jeux vidéo?
C'est vrai.
Ouais.
SAO qui est des animés qui est maintenant mondialement connu. Hein, tout le monde, c'est des mangas, le connaissent.
Au moins
c'est
devenu. Je me souviens encore quand il est sorti, putain.
Ah bah oui, ça fait bizarre, ouais. Alors donc du coup, maintenant, on se concentre sur l'histoire du film.
Ouais. Donc déjà, en fait, c'est un peu la suite de la saison 2. Vu qu'elle se passe deux ans après que Kirito ait fini SAO, il y a un nouvel appareil qui sort qui s'appelle Logma. Et qu'en fait, c'est pas un jeu en réalité virtuelle comme... le Nerf Gear qui permet d'aller en SAO, mais en réalité augmenté. Un peu comme le trailer de Pokémon Go.
Ah,
c'est celui, celui qui avait l'air vachement cool et tout. Bah, c'est ça en fait. Mais c'est pas juste un trailer.
D'accord.
Et c'est pas des Pokémon.
Ok.
Et donc,
Il y a pas Mewtwo?
Non.
Oh.
Dommage.
Oh, bah, je regarde pas.
Ouais, j'avoue.
Kirito, lui, s'en fout complètement. Il reste sur ses jeux. Il s'aime bien et tout. Mais tous ses amis y jouent, donc au final, il se dit ouais, peut-être qu'un jour je vais m'y intéresser et tout ça. Et il se rend compte que les gens...
Ça sent la baise.
Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, les gens qui viennent de SAO et qui y jouent, ils perdent la mémoire.
Ah.
C'est quand même con.
Il y a encore un problème.
Du coup, en gros, c'est pas de perdre la mémoire. Quoi.
Ouais,
c'est
comme ça qu'il s'en rend. Ça t'a mis aussi, donc...
Ah oui, en effet.
Ah, c'est moins cool, ça.
Il commence à en avoir marre. Il se dit, bon, bah, je vais me mettre au jeu et je vais découvrir pourquoi, quoi. Et en fait, bah, il semblerait que le jeu ait été saboté par une connaissance de celui qui a créé le jeu original SAO.
Ah oui.
Et du coup, c'est là toute l'intrigue de l'histoire. C'est qui, pourquoi, comment,
en fait,
tout ça.
À chaque nouveau jeu, dans toutes les saisons, ils en reviennent toujours au créateur d'ISAO.
Ouais, ouais, ouais.
Toujours à ISAO, au jeu et au créateur.
Sûr, toujours ce même jeu avec
la mise.
Oui. Ouais, mais en même temps, ça c'est, basi- ça c'est normal ça.
Et c'est Bibi qui va.
Et ouais, c'est Bibi.
Toujours Kirito.
Au moins, il est pas au chômage.
Pas de vacances. Pour...
mais il est pas payé en fait.
pas de vacances pour les héros et pas de salaire non plus.
Dis-nous par rapport au film alors, qu'est-ce qu'il y a de bien qu'est-ce que toi t'as aimé dans ce film et qu'est-ce que t'as pas aimé?
J'ai aimé franchement, l'animation elle est cool.
Ouais.
Les musiques aussi. En plus, il y a une espèce d'idole virtuelle qui fait des chansons
oui,
assez
voilà,
sympathiques.
C'est ça. Et elle joue aussi au jeu, hein, c'est ça? Ou pas? Ou elle vient juste pour jouer? Juste pour chanter.
En gros, elle vient juste pour chanter, mais après c'est un peu compliqué,
d'accord.
Puis ce serait vous spoil, donc voilà.
Okay,
et
d'accord.
C'est toujours la même compositrice qui fait les musiques.
Le coup de cœur.
Ah. Ok.
Les combats sont bien rythmés et sont vachement cool.
Mm-hmm.
Mais bon, il y a quand même quelques défauts déjà.
Il y a beaucoup de combats ou pas?
Il y a 3-4 grosses principales scènes
d'accord.
de combats.
D'accord. Ok. Alors vas-y, dis-nous pour les défauts là.
Sur combien de temps de film?
2 heures.
C'est très long. C'est très long, 2 heures.
Ouais. Ouais, mais ça devient de plus en plus classique. Très long, mais de plus en plus court.
Mmh. Mmh. De plus en plus.
On va voir.
Alors,
très
un truc qui n'est pas forcément un défaut, mais c'est qu'en fait, en gros, tout le premier quart du film, il se base sur. En fait, il essaie d'approfondir la relation entre Kirito et Asuna. Mmh. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première saison, en gros, ils ont commencé à s'aimer en genre 4 minutes.
Oui.
Ouais.
Ils se sont rencontrés.
Non, pas tant que ça, mais oui, ouais, si.
Enfin, ils se sont rencontrés, après, ils s'en foutaient un peu d'eux. Puis quand ils ont commencé à devenir amis, ils sont direct devenus fous amoureux.
Oui, ouais, genre. Ah, c'est pas grave. Ça arrive.
C'est parce qu'il l'avait protégée pendant qu'elle elle dormait.
Lui ouais,
enfin
vie.
Bon.
Et bien, surtout voilà. La première réaction qu'elle a, c'est de se déshabiller. Enfin bon, on en reparlera une autre fois.
Ah, mais c'est pas grave, on s'en fout, les deux.
Alors. Et du coup. Donc, du coup, les 15 premières minutes, c'est la relation entre les deux.
C'est ça.
Après, bon, voilà, ouais. Ça c'est pour faire plaisir aux fans aussi. Ouais. Un peu. Voilà.
Mais du coup, il y a aussi une autre qualité, c'est que. On dirait que l'action, elle est pas vraiment orientée vers. Kirito ou Asuna, ouais. Les deux sont bien départagés.
D'accord.
Et puis ils sont pas tout le temps ensemble aussi. Il y a des scènes avec que Kirito, des scènes avec que Asuna.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore?
Mais d'ailleurs, le point négatif du film, c'est la fin. Je vais pas vous spoil, mais en gros, c'est le pouvoir
elle
de l'amitié.
Elle est pas faux folle.
En gros, c'est le pouvoir de l'amitié. C'est ils sont dans la merde. Le pouvoir de l'amitié arrive.
C'est mieux.
Ouais, mais après, c'est pas si étonnant que ça.
Ouais.
Fait,
ouais. Bah,
c'est ça, ils ont des cartes de smiley sur les mains.
Oui.
Ouais, on va dire qu'on a. On va plutôt dire qu'on a pas de surprise quoi.
C'est ouais, ça, voilà. Mm. C'est bah oui. En fait, je m'y attendais quoi. Mm-hmm. Mais à part ça, oui, le film est.
Est-ce
cool.
qu'il fait comme ça? Il dit vas-y, donnez-moi
votre
épée.
Donnez-moi votre force. Donnez-moi votre épée.
Genki Dama. C'est presque comme ça en vrai.
Ah,
mais après, bon.
Ok. Donc alors, il est joli, les combats sont bien.
Ouais, les combats sont rythmés.
Un peu trop classique.
Un peu classique.
En fait, j'ai envie de dire, c'est exactement ce qu'on pensait du.
C'est
du
SAO quoi.
Oui.
Ils se sont pas mouillés, mais ça marche.
Ah. En fait, après c'est toujours le risque parce que c'est soit on va dire ouais, bah, voilà, on espère qu'ils prennent des risques. Mais s'ils prennent des risques, on va dire ouais, bah voilà, SAO on aime bien comme ça. Alors pourquoi
ça peut être des risques mauvais quoi.
Donc voilà, on va dire que
c'est classique.
C'est le film qu'on attendait.
Classique mais efficace.
Franchement, aucune surprise.
Mais après, le truc qu'on peut saluer aussi, c'est le fait qu'on puisse se trouver au cinéma. Ça, c'est quand même un truc plutôt cool.
Oui,
c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir.
On est tranquille dans la salle, il n'y a personne.
Ouais. En même temps, c'est jeudi soir aussi. C'est jeudi soir. D'accord, ok. Non, bah écoute, si tu devais lui mettre une note alors.
14 sur 20.
14 sur 20, ok. Eh ben, très bien. Allez, on l'appelle très fort.
Excellent. C'est propre.
14 suivants, c'est
propre.
Ouais.
Voilà. Bah, à tout guillemets, ça fait du moyen.
Ouais,
c'est
voilà.
C'est pas ouf.
C'est pas celui qu'on va aller voir, quoi.
C'est pas Silent Voice. Ok. Hein.
Pas de soucis, oui. C'est noté.
C'est pas The Witcher 3, quoi.
Donc voilà. C'était le dossier de notre cher ami El Mostico. Donc,
Mosquito.
Du coup, Mostico, Mosquito.
Il va changer de nom.
Il y a encore plein d'autres trucs, quoi. C'est comme Scooby-Doo, c'est
Scooby-Doo.
Ouais, c'est ça. Allez. Donc, du coup, vous êtes toujours sur CoolerFM.com. Maintenant, on va s'attaquer aux sorties parce que voilà, il y a encore des trucs qui sortent et à tout mais on aime vous les présenter. Voilà. Et on commence tout de suite avec la sortie évidemment du nouvel Anime Land qui va revenir sur le festival d'Annecy. Vous aurez aussi un dossier sur l'économie, voilà, en 2016, le marché de l'anime en France. Vous aurez un dossier manga sur Kenshin le Vagabond, dessin animé avec My Hero Academia saison 2, l'attaque des titans saison 2, Dragon Ball Super, Boruto, enfin bref, la totale, et dossier nostalgie avec Captain Flamme. Après, sinon, est-ce que quelqu'un peut me faire les sorties case manga s'il vous plaît?
Oui, avec Le Garçon et la Bête. Le Garçon et la Bête s'inscrit dans la tradition des adaptations manga des films de Mamoru Hosoda. On retrouve ici au dessin... On retrouve ici au dessin un jeune mangaka, Renji Asahi, qui apporte la finesse et la dynamique de son trait pour retranscrire et éclairer sous un nouveau jour l'histoire d'un garçon et d'une bête qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Perdu dans le monde fantastique des bêtes, le garçon devient le disciple de la bête Kumatetsu. Cette rencontre fortuite est le début d'une fable initiatique qui dépasse l'imaginaire.
Ok, ensuite sortie Pika s'il vous plaît.
Noragami volume 16, Bishamon est toujours décidé à éliminer le mage, mais pour protéger sa famille de son terrible pouvoir, elle s'approprie un Shinki rebelle emprisonné par les cieux. Très vite, les cieux apprennent son méfait et lancent une expédition punitive contre elle pour trahison. Takemi Kazuchi en prend bien sur la tête pendant que les autres dieux doivent faire un choix.
Ok, ensuite on va faire une sortie Glena avec le Inamoru Sumo numéro 6. Autorisé à passer une journée au sein de l'écurie Shibakiyama, Notre héros profite de l'occasion pour s'entraîner avec un lutteur professionnel du nom de Saenoyama, qui lui permet d'accomplir d'immenses progrès. Pendant ce temps, les autres membres du club de sumo se voient proposer un entraînement à la fois personnalisé et exigeant, dont ils sortent eux aussi renforcés. Allez, les sorties soleil, s'il vous plaît.
Gambling School Volume 2. Après avoir perdu contre un membre du conseil, Yumeko se retrouve endetté de 310 millions de yens. Dans cette école, les perdants sont appelés des bêtes et largement raillés. On leur vole leur honneur et leur avenir. Ils peuvent toutefois s'engager dans une dernière partie qui leur permettrait de retrouver leur fierté et leur vie. Nos deux jeunes filles défient alors les codes de l'école et mettent en jeu leur destin.
D'accord, et sorti Delcourt en calme ?
Oursuber Holiday.
Non, attends, t'as Super
dit quoi ? Normalement, s'il te plaît. Alors, Oursuber Holiday.
Ah ouais, d'accord, ok.
Bon, il a pris 10 ans, tu sais, dans sa voix.
Nos vacances d'été.
C'est ça.
Alors, Natsuru, 11 ans, est la star de son collège et jeune espoir du football. Il se retrouve mis à l'écart le jour où il refuse les chocolats que lui offre la plus jolie fille de l'école. Seul, il fait la connaissance de Ryo, une fille de sa classe qui est rejetée par ses camarades à cause de sa très grande taille. Ils vont petit à petit se rapprocher et Ryo va alors lui avouer son lourd secret.
C'est un homme.
Y'a pas que mes jambes qui font grande taille.
Et on finit avec une sortie cana avec le Dead Dead Demons DDDD Destruction numéro 4. Et c'est vraiment le titre. Alors que le vaisseau mère des envahisseurs flotte toujours dans le ciel de la capitale, Futaba, accompagné de Makoto, part s'installer à Tokyo pour voir de ses propres yeux ce qui se passe vraiment dans la mégapole. Mais quel est le véritable objectif des envahisseurs à découvrir dans le volume 4? Et c'est tout pour les sorties. Wouhou! Et maintenant, je vais finir avec, eh ben, évidemment, le dossier manga. Alors, le dossier manga, c'est un petit coup de cœur. Voilà, un petit coup de cœur que j'ai bien apprécié. Je voulais vraiment le lire depuis un moment. J'attendais justement sa sortie en France, simplement parce que souvent, il était dans le classement, vous voyez, des mangas qu'on aimerait bien voir sortir voilà, du côté de chez nous. Et en France, ils ont donné en plus un nom que je trouve plutôt sympa. Ça s'appelle Glouton et Dragon. Donc voilà, ouais. Qui sort chez l'éditeur Casterman.
Faut que je récupère les recettes. Faut que je récupère les recettes.
Ah mais c'est exactement ça. Bah vous allez voir. Ah, très rapidement, je vous lance dans l'histoire. Vous avez évidemment tous voilà vu des mangas classiques où vous avez une bande de héros qui essaye de conquérir entre guillemets un donjon. Alors évidemment souvent vous voyez dans les mangas on se dit bah, voilà ils vont collecter plein d'objets, ils vont essayer d'avoir les meilleurs hommes possibles. Mais il y a un truc auquel on pense pas forcément, c'est comment ils mangent, c'est-à-dire comment ils vont se nourrir. Et on sait évidemment à quel point c'est important. Et donc du coup vous avez on va dire c'est un peu voilà le leader de la bande qui s'appelle Ratos. Ils vont faire une tentative. Le problème c'est qu'ils vont tomber contre un dragon qui est clairement plus fort qu'eux. Et le dragon en fait va manger la sœur du héros.
Ah.
Sauf que elle a, alors le dragon en fait met très longtemps avant de digérer la personne. Ça veut dire que évidemment eux ils vont s'échapper, mais ils disent qu'il y a moyen de sauver voilà la sœur.
Ils arrivent à lui ouvrir
donc,
le
voilà,
ventre.
Ils vont réussir à sortir du dragon.
Le loup.
Ils vont essayer de re-rentrer. Et au moment où ils vont rentrer, ils vont commencer à voir qu'ils vont très vite arriver à court de, voilà, de nourriture. Et c'est là qu'il va arriver un personnage. Alors, il faut savoir que déjà, dans leur bande, ils sont plus que trois survivants. Vous avez Ratos, qui est une sorte de chevalier à tout ce qui est plus classique. Vous avez un jeune gamin qui est, lui, spécialisé dans tout ce qui est découverte de pièges. Et vous avez une magicienne, donc voilà, qui est un peu une elfe. Pareil aussi, tout ce qui est plus classique, c'est une fille totalement banale. Quoi. Alors, et donc du coup, ils vont tomber sur un personnage qui est une sorte de nain avec une grosse barbe. Et lui, en fait, eh ben, faut savoir que c'est un fin gourmet, c'est un cuisinier.
Dans le dragon.
Hein ? Non, dans le donjon.
Ah, okay.
Dans le dragon, ça aurait été génial.
Grave.
Ils vont découvrir que ce mec-là, c'est un grand cuisinier, sauf que il cuisine toujours avec, on va dire, ce qu'il trouve dans le donjon. C'est-à-dire que là, on va pas s'attendre à avoir de la cuisine gastronomique telle qu'on l'entend.
Genre
c'est qu'elle va être, voilà. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt. C'est que vous allez avoir que des recettes faites avec, voilà, le bestiaire et autres que vous pouvez trouver, dans les univers de Donjons et Dragons. Alors, par exemple, ils vont cuisiner. Ils vont cuisiner un basilic. Alors le basilic là c'est le poulet avec la queue qui est en fait un serpent. Enfin bref,
c'est
un truc totalement bizarre. Vous allez aussi avoir l'omelette de mandragore. mais le pire c'est que comme ils vont présenter
faim, quoi.
Je veux dire en fait chaque chapitre ça va être comme ça. Ils vont continuer à avancer. Là du coup ils vont avoir faim. Et là ils vont vous avez le
un pauvre
le
animal
nain.
Qui passait par là
non, mais, t'as le nain qui va commencer à voir, il va dire ah bah voilà, là dans, par rapport à l'humidité, là je sais qu'on peut trouver telle créature, on va essayer de le choper. Moi j'ai des aromates. Alors dès qu'ils vont choper
en fait,
la
c'est
créature,
mon histoire, quoi.
Dès qu'ils vont choper la créature, ils vont dire ah bah voilà, il faudrait qu'on découvre, il faudrait qu'on cherche tel légume parce que ça irait bien. Parce qu'en fait, alors le nain, il est hyper chiant parce que il cuisine avec ce qu'il trouve, mais par contre
il veut
vraiment
lui acheter les bons ingrédients,
sublime la recette,
ouais,
quoi.
D'accord.
Et c'est trop drôle. Et autre personnage qui est énorme, bah vous voyez la fille qui est totalement banale, ben elle ce serait un peu genre le personnage lambda, c'est-à-dire celle qui est totalement dégoûtée, quoi. Quand on lui dit ce qu'elle va manger, elle dit non mais arrêtez, j'ai pas envie de manger ça, quoi. Ils lui font manger de la chauve-souris et tout, et à chaque fois les deux autres garçons ils sont pas tentés mais ils vont quand même manger parce qu'ils ont la dalle, et après ils vont dire ah bah au final c'est super bon. À un moment ils vont même manger, vous voyez les des fois dans les jeux on tombe sur des armures qui sont totalement vides,
ouais,
et ben ils vont manger l'armure. Voilà. Et après, ils vont faire ça, il va faire une sorte de pot au feu, tu sais, ils vont prendre le casque en disant bah voilà, tu sais, en fait
avec un peu de rouille, c'est parfait.
Non, non, c'est même pas ça, c'est encore plus dégueulasse. C'est que vous voyez, ils disent comment ça se fait que ça arrive à bouger tout seul, et là en fait que tu vas découvrir qu'en fait tu sais c'est une sorte de slime, en fait,
ouais, et du coup ils vont racler le slime, c'est ça,
et justement en fait ils vont cuisiner le slime qui est à l'intérieur, quoi. Et en plus ils vont le cuisiner à l'intérieur de la tête du de l'armure, parce que il y a un goût dans cette tête là, quoi. Et justement
c'est mon dieu.
Et j'ai personnellement, j'ai adoré. Alors, par rapport au manga, je veux dire, le dessin
c'est
est hyper simpliste. Faut pas s'attendre à des pages de genre une double page avec des trames et tout de ouf et tout. C'est ultra simpliste, mais en fait, c'est vraiment l'histoire qui est
ça
hyper originale. Et alors, au niveau des recettes, parce que c'est bien expliqué en plus, tu sais, il y a vraiment la recette. Ils,
ouais.
Genre,
on peut les refaire.
Voilà, deux points de... Bah, si on a les ingrédients.
Oui, 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 non, mais tu remplaces
voilà,
un peu,
on
mais.
On peut le faire. Et moi, j'ai vraiment adoré. Alors, par contre, le point négatif qui va être hyper flagrant à la fin du premier tome, c'est que ça peut être extrêmement rébarbatif, quoi.
Oui, clairement.
Parce que là, clairement, voilà, vous avez la recette et autres, mais vous n'avez pas de fil conducteur. Évidemment, alors,
il est terminé ou pas le manga.
Le fil conducteur, c'est le fait de sauver la sœur. Mais bon, non, il n'est pas terminé. Mais par contre,
il
marche très bien au Japon. Ça, je pourrais pas te dire. Mais par contre, 42. Voilà, c'est un petit coup de cœur parce que moi, j'aime ce genre de manga qui est très original. Et ça me fait plaisir justement de lire ce genre de choses. Alors l'un des points négatifs aussi, c'est l'éditeur Casterman, et un éditeur qui sort des mangas qui sont quand même relativement chers. C'est-à-dire que vous allez avoir une jolie couverture, mais par contre voilà, au niveau de la moyenne de prix, c'est pas les moins chers, quoi. Donc voilà, à découvrir. Moi je trouve quand même que c'est un manga qui tend à être lu, et voilà, qui sort de l'ordinaire, quoi. Donc et surtout pour ceux qui aiment la cuisine et pour ceux qui aiment voilà les RPG,
avec ce beau manga.
Franchement vous allez adorer. Vous
t'aimes allez la cuisine, clairement, RPG.
Franchement c'est vraiment un manga par exemple que je conseille à Botan, parce que
clairement je vais
moi
dire.
J'ai comparé au nain, quoi, parce qu'en plus avec la barbe et tout, voilà, on pense au personnage, c'est vraiment énorme, quoi.
Laisse-les découvrir.
Allez, et au niveau de la note, je mettrai un bon 16 sur 20 par rapport à l'originalité. Ah voilà. Ouais. Allez, et c'est tout pour le dossier de Rio.
Il a l'air super cool, hein.
Ouais, ouais, il donne grave temps.
Et donc du coup on finit par un fameux jeu de
Tokyo Yume.
Et donc pour
un
le jeu de Kyume, j'aimerais
un
manga.
Non, c'est quoi les équipes,
d'accord, les mêmes
que la semaine dernière.
Ouais, okay,
j'aimerais
ouais.
un manga qui se passe dans un donjon. C'est parti.
Oh là 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 là.
Allez, on commence.
C'est vous qui commencez.
Donjons et Dragons.
C'est pas un manga.
Des mangas qui se passent dans des donjons. En fait, j'en connais qu'un, mais ça m'envoie, c'est un truc coréen.
Tu peux le dire.
The Gamer.
Ouais. À vous.
Donjon.
Alors, pas forcément même qui se passe, mais au moins on va dire une grosse partie de l'histoire, ça se passe dans un donjon.
Vas-y. Monster Hunter au rage.
Ouais. Ah oui, pas bête.
SAO.
SAO.
Oui, grave. Donjon et Glouton.
Bien sûr.
Oh,
si vous l'aviez pas dit, j'aurais mal pris. Ensuite.
Moi, je pensais que c'était de la triche, ça, tu vois.
Il a le droit. Ensuite.
C'est pas de la triche.
Alors, attends, je suis en train de réfléchir à un jeu vidéo qui pourrait avoir une adaptation manga, tu vois.
10.
Log Horizon.
Ah
ouais.
Bien vu. J'allais dire. Est-ce que ça compte comme un donjon, la partie où dans Dragon Ball Z, il affronte le vaisseau spatial, et tu sais, à chaque étage, il doit affronter un boss et tout.
Et ça,
alors, c'est un donjon.
Des drôles, les autres mangas Monster Hunter.
De quoi? Non. C'est une belle. Alors, 10, 9, j'en ai 8, plus.
C'est trop chaud.
7, 6, 5, 4.
Ah, si, après, je sais pas si tu vas le compter, mais j'avais fait un manga, c'était Remonster. Tu sais, c'était pareil, c'était un MMORPG où le mec il se réveille dans un monde de,
allez, j'accorde.
De gobelins.
Alors, je vais te faire un autre manga, Tower of God.
Oui, celui que t'avais présenté. Ouais,
oui, je m'en souviens.
C'est vrai.
En même temps, j'ai
allez,
plus
à vous.
Ah, c'est bon, j'avais plus. Là.
Allez, c'est bon, on abandonne.
Ouais, grave,
5,
6, 6, 6, 6, 6,
6,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, victoire encore. de l'équipe de Chamallow et Bottom. Ouais. Fallait penser vraiment à tous les clones, vous voyez, qui se passent justement dans les un peu les SAO. Il y a Dan Machi par exemple.
J'ai jamais regardé. Si ou... ah, tu connais deux noms, mais alors jamais vu.
Voilà, vraiment les. Maintenant, c'est un peu la mode aussi, hein, ce genre de dessin animé, quoi. Donc voilà, fallait enchaîner. Mais après, bon, écoutez, vous êtes quand même bien battu.
Dan Machi, je connais deux noms, mais j'ai jamais regardé ni lu, alors je pouvais pas savoir.
Je comprends, je comprends. En tout cas, donc voilà, c'est tout pour l'émission Tokyo Humé. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. On remercie tous nos chroniqueurs. Donc du coup, on remercie. Vous pouvez pas en parler après, hein, vous inquiétez pas. On remercie donc du coup notre ami Chamallow, on remercie notre ami Botan, notre ami Haro et notre ami le Chevalier Solaire. On remercie évidemment tous nos chroniqueurs. On remercie tous nos partenaires et n'oubliez pas Tokyo Humé Jour.
Tokyo Humé Jour.
N'oubliez pas d'aller à Tokyo Humé Day. Tokyo Humé Day qui aura lieu le 24 juin prochain. Donc voilà, une expo sur Bourgogne au lycée
Loiselet.
C'est le samedi, vous n'avez pas d'excuses. C'est après le bac, encore moins d'excuses.
Et c'est
voilà, et c'est toute la journée quoi. Venez
c'est
nous
gratuit,
voir.
Encore et moins d'excuses.
Allez, donc voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Tokyo Humé Jour.
Tokyo Humé Jour.
Allez, bye bye, ciao ciao.